Bonjour, je suis née 5 ans après la dernière guerre et je voudrais qu'on m'explique comment il se fait que le général de Gaulle ait ignoré le passé de Papon et lui ait remis la Légion d'honneur. Là, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je vois pas la cohérence. Merci.
Alors, je viens d'écouter l'émission et j'en suis vraiment tout bouleversé, quoi. Je suis moi-même policier et vraiment, je sais pas, je suis vraiment tout retourné parce que je viens d'écouter. Il y a vraiment un travail de mémoire à faire, vraiment un travail de mémoire à faire parce que on ne peut pas continuer comme ça à se cacher de la vérité. Et voilà, donc merci à vous et voilà, c'était Fred.
Mais je viens d'écouter l'émission sur le 17 octobre 1961. À l'époque, j'avais 20 ans, j'étais en province et on n'en a rien su. Moi, j'ai entendu ce policier qui a... Je le remercie de tout mon cœur de son témoignage, car honnêtement, j'ai honte d'être française quand j'entends ce qui s'est passé. Merci. Merci de n'avoir de refaire, redire toujours ça. Merci.
Lundi soir, te souviens-tu, papy? Pareil qu'on les aurait là-bas dans les Aurès et même ici. L'automne, cette année-là, ils envahirent Paris. Fallait pour le pays arrêter la malade. Le jus d'octobre 61, tu en avais plein le ventre et les mains. Le jus d'octobre 61. C'est avec délices que d'arrogants primates que matait la police et qui plissait les peaux mates, sans honte ni remords. Des gens criaient bravo. Seuls les caniveaux rougirent jusqu'à l'aurore. Le jus d'octobre 61, tu en avais plein le ventre et les mains. Sous le pont Mirabeau, ça coule dans la Seine. La belle chasse à cour, faut-il qu'on s'en souvienne? La joie venait toujours avec la haine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les corps s'en vont, tu demeures. Le jus d'octobre 61, j'en avais plein, le ventre et les mains. Après bien des années de bons et loyaux sévices, tu quittais la police avec des regrets. Les sirènes des fourgons, tu t'en souviens, papy, chantaient sous la pluie. Merci, patron. Les sirènes des fourgons, tu t'en souviens, papy, chantaient sous la pluie, papon, 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 papon. C'est un petit jeune homme qui n'était pas né en 61, Morad, et lorsqu'il a lu la bataille de Paris, cela lui a inspiré cette petite chanson que je n'ai pu vous faire entendre, malheureusement. Au revoir. Merci, Daniel.
Olivier, en Suisse, j'ai été assez choqué hier d'entendre dans le journal de 10 heures, donc hier dimanche, d'entendre dire que des Algériens avaient été passés à tabac le 17 octobre 1961, alors que Papon était préfet de police. Passés à tabac, alors qu'il y aurait eu plusieurs centaines de morts, selon certains témoignages. S'agit-il d'ignorance de la part de la journaliste ou d'une forme de négationnisme? Dans le premier cas, c'est lamentable, et dans le deuxième, c'est très grave. Dire des choses pareilles, enfin voilà.
Merci, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux, pour vos messages. Merci à cet auditeur policier pour son message. L'auditeur suisse, non, n'exagérons pas, c'était pas plusieurs centaines de morts. C'était, on pense aujourd'hui qu'il s'agit de 200 victimes, ce qui est déjà considérable. Et encore, ce chiffre est-il à réviser? Ce serait 50, que ce serait déjà considérable. Voilà, j'écoute vos messages depuis la Chine. Je suis toujours à Pékin. On commence à envisager de revenir quand même un beau jour à Paris. Je voudrais vous raconter simplement une image, vous décrire simplement une image. On était à Canton, et à Canton, on s'est reposé une journée dans un hôtel assez luxueux, avec une chambre. C'est pas cher du tout, vous savez, la vie en Chine, c'est pas cher. On peut se payer un hôtel luxueux pour l'équivalent de 50 euros, surtout que c'était les fêtes et que les hôtels étaient vides. Donc me voilà dans un hôtel luxueux à 50 euros. Et je découvre que dans cet hôtel luxueux à 50 euros, eh bien, je peux choisir entre quatre espèces d'oreillers, des pillows. Je peux choisir entre quatre espèces. Je peux prendre un avec des plumes, l'autre avec de l'acrylique, l'autre avec du duvet, l'autre avec du coton. Je peux choisir entre quatre espèces d'oreillers pour passer une douce nuit. Bien, voilà, le luxe. Et par la fenêtre de cette chambre d'hôtel, j'aperçois des terrasses en contrebas, les terrasses de maison d'un petit quartier, un vieux quartier d'ailleurs de Canton. Et sur l'une de ces terrasses, je vois un jeune homme qui est en train de piétiner, je me demande quoi. Il est en train de piétiner des boîtes de soda, des boîtes de coca, des boîtes de jus de fruits, comme s'il est en train de les piétiner, de les écraser. Et pourquoi faire? Eh ben, pour les resserrer et pour les porter dans une usine qui transformera ces boîtes, il les récupérera pour les remettre dans le circuit sous forme, je pense, d'aluminium. On récupère beaucoup, beaucoup en Chine. On récupère tout et on recycle notre plastique, nos emballages plastiques, nos ordinateurs. Tout ça, c'est recyclé. On fait des fleurs artificielles avec nos anciens emballages plastiques dans des conditions épouvantables de conditions de travail, conditions sanitaires, conditions évidemment de l'environnement. Je me demande simplement combien de temps faudra-t-il pour que le jeune homme que je vois par ma fenêtre en train d'écraser ses emballages de soda, combien lui faudra-t-il de temps pour comprendre que moi, dans ma chambre luxueuse, j'ai le choix entre quatre oreillers différents? C'est une question. Je n'ai pas la réponse. Et je ne suis pas sûr qu'on vous la ramènera depuis ce voyage en Chine. En tout cas, aujourd'hui, c'est le deuxième volet de ce 17 octobre 1961 qui vous a intéressé. J'espère que cette deuxième partie va vous intéresser aussi. C'est juste après ces messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut à tous, petit message du carnaval de Binche en Belgique.
Bonjour Daniel, c'est Isabelle des Enfants de Doggy Shop Toulouse. Donc petit message pour remercier fortement Jacques Higelin de nous avoir invité hier tout le campement à son concert et d'avoir pu donner un moment aux personnes pour monter sur scène et expliquer notre combat à 4000 personnes qui étaient dans la salle. Je pense que ça restera gravé pour tous les gars qui sont allés voir ce moment magique. Bon ben sinon ici c'est toujours la même merde, hein, aucun responsable de la ville en vue et toujours le même mépris des pouvoirs publics. Alors nous on demande que ce serait quand même sympa que les Toulousains viennent nous informer des adresses des bâtiments vides sur Toulouse afin qu'on propose à la ville une liste d'immeubles à réquisitionner pour appliquer le projet de loi de M. Merleau. Ici, le directeur de la DAS se comporte comme un actionnaire principal d'une multinationale, coté au CAC 40, afin de divulguer le budget précis de la région pour la création de CHRS ou de maisons relais. Allez Daniel, passe ici si tu as le temps, on t'accueillera comme des chefs. Allez, bisous.
Vous les voyez à la télé, ils sont beaux, certains sont laids. Vous les lisez, les entendez à la radio, qu'ils parlent bien, quels jolis mots. Et si on se réappropriait la parole politique? C'est avec cette idée simple et logique que depuis quelques mois et jusqu'à la veille des élections, le collectif Aux urnes, etc. traverse la France. Du 19 au 25 février, il pose ses chapiteaux à Blanquefort, près de Bordeaux, pour une semaine de débats, de projections et de réflexions autour d'intervenants locaux et nationaux. Plus d'informations sur http://ausurnes.free.fr ou http://ausurnesbdx.free.fr.
Ouais, salut à tous. Un petit mot concernant la grippe aviaire. Il y avait une émission il y a quelques jours à la radio et il nous annonçait que depuis 2003, la grippe aviaire avait tué 167 personnes, ce qui effectivement est un drame. Mais toute proportion gardée, parce que ça fait quand même sur 3 ans environ 5 morts par mois de la grippe aviaire. Si on compare avec les enfants qui meurent de faim ou de malnutrition, Par mois, il en meurt à peu près dans le monde 260 000, soit d'un côté 260 000 enfants et de l'autre côté 5 personnes mortes de la grippe aviaire. Si on compare avec la France, tous les mois, il meurt environ 720 personnes de suicide. Tous les mois, il y a 720 suicides. Et en France, il y a 260 000 enfants qui meurent de faim ou de malnutrition dans le monde. Et depuis 3 ans, il y en a 5 tous les mois qui meurent de la grippe aviaire. Alors on voudrait justifier de prendre en charge avec de l'argent public les problèmes dus à l'exploitation exagérée dans des conditions lamentables des poulets qu'on s'y prendrait pas autrement. En fin de compte, sous prétexte de sécurité sanitaire, on nous explique qu'il faut financer la restructuration de l'élevage de poulets en batterie parce que ces messieurs qui font du bénéfice les gardent pour leurs actionnaires et n'ont pas envie de régler le problème. Maintenant, il serait peut-être intéressant de savoir ce que bouffent ces poulets et si la grippe aviaire n'est pas transmise par la bouffe plutôt que par des hypothétiques canards sauvages. Bon, ciao, vive, portez-vous bien. On voudrait nous le foutre dans l'os qu'on s'y prendrait pas autrement.
Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. Vomir à la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire?
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, 17 octobre 1961, en travers de la gorge.
Flight number 2.
Aujourd'hui, on continue à évoquer le 17 octobre 1961. Et pour situer un peu les choses, on peut rappeler qu'en août 1958, le FLN a porté la guerre en France par une série d'attentats visant des personnes et des biens. Le gouvernement réagit et fait appel aux compétences du préfet de police de Paris, Maurice Papon. Celui-ci instaure un couvre-feu pour les Français musulmans d'Algérie, comme on dit alors, et il organise de vastes ratonnades. On n'a pas oublié, dans la nuit du 28 au 29 août 1958, comment, sous son contrôle, la police procède à une vaste rafle où 2000 Algériens sont parqués au Veldiv par les policiers parisiens qui n'ont pas l'air trop gênés, 16 ans après la rafle du Veldiv de juillet 1942. Mais venons-en à cette année 1961. Côté métropole, 460 Algériens ont été abattus entre le 1er janvier et le 31 août 1961. Du côté de la police, 49 policiers ont été abattus depuis février 58, c'est-à-dire de 58 à octobre 61. 14, notamment, ont été tués entre août et octobre 1961. La tension monte et le 2 octobre, lors des obsèques d'un policier victime d'un attentat, le préfet Maurice Papon déclare à ses hommes « Pour un coup reçu, nous en rendrons 10 ». Le 4 octobre, avec l'accord du gouvernement, il met en place un couvre-feu concernant les Français musulmans d'Algérie, un véritable couvre-feu au faciès dont le caractère discriminatoire est évident. C'est contre cette mesure que le FLN, la FFLN, organise une grande manifestation de masse non violente pour le 17 octobre à 20h30. Les ordres du FLN sont clairs, la manifestation sera interdite par le gouvernement. 7000 policiers prennent position, 1400 CRS et gardes mobiles. Les manifestants sont aux alentours de 30 000. Il y aura 11 730 arrestations, les Algériens n'opposant aucune résistance aux arrestations. Les manifestants n'ont aucune arme, c'est la consigne très stricte, il faut le redire, de leur encadrement. Ce soir-là, aux alentours de 21h, un premier coup de feu claque dans la foule. Il s'agit d'une provocation policière. C'est le signal qui déclenche le massacre de ce qu'on appellera le pogrom ou la nuit de cristal.
Depuis toujours, la France est une terre d'accueil. Face à la puissance de l'ennemi, le réservoir humain des colonies sera même sollicité. Et ce sont 600 000 coloniaux de l'Empire que l'on fait venir au secours d'une patrie dont ils ne sont que sujets et non citoyens. Je déchirerai le rire banania de tous les murs de France.
La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme.
Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, on ait voulu lever le peuple. Il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage.
Vive la France ! Vive l'Algérie française !
L'extrême droite prépare un putsch en liaison avec des éléments de l'armée.
Le 17 octobre 1961, les Algériens de Paris manifestent contre le couvre-feu qui vient de leur être imposé.
Mais la répression policière a été d'une telle brutalité que l'opinion publique s'émeut. Des témoins rapportent aux journaux des scènes de lynchage, de noyades.
Dans la cour même de la préfecture de police, des dizaines de manifestants sont tabassés avec sauvagerie.
200 Algériens au moins ont été tués cette nuit-là.
La vie continue.
Paris, le 30 octobre, lors de la discussion du budget de l'intérieur, devant les députés, Roger Frey affirme, et cette phrase restera célèbre, « Je n'ai pas le moindre commencement du nombre de preuves des accusations portées contre la police ». Il y a eu ce jour-là l'intervention courageuse de Eugène Claudius Petit du groupe de l'Entente démocratique. Il dira ceci. Faudra-t-il donc voir prochainement, car c'est la pente fatale, la honte du croissant jaune après avoir connu celle de l'étoile jaune. Car mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que nous vivons. Nous vivons ce que nous n'avons pas compris que les Allemands vivaient quand Hitler s'est installé. La bête hideuse du racisme que les civilisations, que les institutions ont tant de peine à refouler au fond du cœur de l'homme et de son esprit et de sa raison, la bête hideuse est lâchée. Vite, monsieur le ministre, et là il s'adresse évidemment à Roger Frey, vite, monsieur le ministre, refermez la trappe. On retrouve Jean-Luc Enodi.
Dans la cour de la préfecture de police, il y a des milliers d'Algériens qui sont amenés là d'abord, avant d'être transférés vers d'autres centres de détention. Et là, des scènes de violence terribles ont lieu aussi. J'ai le témoignage d'Algériens que j'ai rencontrés, que je suis allé chercher, en Algérie notamment, qui m'ont décrit le degré de cette violence dans la cour de la préfecture de police. Là où se trouvait Maurice Papon, qui était dans la salle de commandement de cette préfecture de police. Des scènes de lynchage commis par des policiers. Et dans le courant de la nuit, tout indique que des Algériens, probablement plusieurs dizaines, sont tués. Vers minuit, plusieurs policiers en tenue, sous le choc, se présente au siège du journal France Observateur et il demande à voir les responsables du journal. Ils voient Claude Bourdet, qui est directeur, et Gilles Martinet, qui est rédacteur en chef, qui les reçoivent. Et ces policiers leur disent que 50 Algériens viennent d'être tués dans la cour de la préfecture de police. Claude Bourdet et Gilles Martinez sont prudents. Au départ, sont prudents. Parce que ça peut être une provocation. France Observateur a été souvent saisi. Et la saisie, c'est le meilleur moyen de faire couler un journal. Mais devant le témoignage de ces hommes, ils ne peuvent que les croire. Les hommes qu'ils ont là, à ce moment-là, devant eux, sont complètement authentiques.
Claude Bourdet est aujourd'hui décédé, mais nous l'avions rencontré en septembre 1991.
Ce que ça évoque de la manière la plus criante, c'est la visite que nous avons reçue à France Observateur quelques jours plus tard. Ça devait être le lendemain ou deux jours plus tard, d'un petit groupe de 3 à 4 policiers qui sont venus les yeux hors de la tête nous raconter ce qu'ils avaient vu. Et à ce moment-là, nous n'étions, comme tous les journaux, pas du tout au courant de tout ce qui s'était passé. Nous savions qu'il y avait eu des horreurs, mais nous ne savions pas jusqu'à quel point. Savoir qu'on avait massacré des Algériens manifestant pacifiquement, qu'on les avait massacrés jusque dans la cour de la préfecture de police, comme sont venus nous le dire, presque en pleurant, les policiers en question, ça, nous ne l'imaginions pas.
On parle d'événements qui datent d'il y a 30 ans. Très souvent, on compare la façon dont on a traité la guerre d'Algérie chez nous par rapport à la façon dont nos confrères américains ont traité la guerre du Vietnam. Pourquoi un si long silence ?
La droite, premièrement, n'a jamais voulu croire à toutes les atrocités de la guerre française d'Algérie. Et la droite pensait que dans la mesure où on avait assassiné des Algériens, c'était très bien. Quant à la gauche, elle avait honte. Elle avait honte de la France, elle avait honte d'elle-même. Et puis elle avait peur, parce qu'il faut bien dire que la brutalité de l'État dit républicain ou de l'État gaulliste ensuite contre les gens qui dénonçaient la guerre d'Algérie n'était pas vaine, c'était pas peu de chose. En Amérique, les gens qui se sont battus contre la guerre d'Indochine n'ont pas été en prison, on n'a pas saisi leurs journaux, et ils ont pu faire à peu près ce qu'ils ont voulu, parce que l'Amérique, avec tous ses défauts, est une vraie démocratie, ce que n'est pas la France.
Est-ce que, comme Benjamin Stora le dit, il y a oubli et gangrène ?
Ah ben, elle se mesure au racisme, qui est 32% de Français qui sont favorables à l'abominable Le Pen, ce n'est pas un hasard, et que c'est dû en grande partie, justement, au fait qu'on n'a jamais dit la vérité sur la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui.
On peut considérer que les Français n'ont pas digéré la guerre d'Algérie. Si on peut imaginer qu'on mette aussi longtemps à digérer quelque chose, 30 ans, ça finirait par ulcérer un peu un corps social.
Oui, oui. Digérer, ulcérer, ça me paraît juste.
Le 17 octobre 1961, dans la police, les câbles de frein des vélos disparaissaient étrangement.
J'ai vu certains collègues enlever les câbles de frein pour en faire usage de quoi, je n'en sais rien, puisqu'ils ne les ramenaient pas, les câbles de frein. Et quand ils faisaient des arrestations, ils emmenaient des Algériens, soi-disant, au centre de Vincennes. Ma foi, c'est peut-être possible aussi, mais enfin, malgré tout, les Algériens ne revenaient pas et les câbles de frein non plus.
Donc vous avez pensé que ça pouvait servir, par exemple, à les étrangler ?
Ben, il a été... Moi, je ne l'ai pas vu, mais il a été repêché des corps dans le canal Saint-Martin comme dans la Seine, où il y avait des câbles de vélo autour du cou des personnes qui avaient été étranglées, quoi, les Algériens.
Dans la nuit noire, sous une pluie battante, ce sera le massacre. Selon la version officielle, toujours officielle, rendue publique le lendemain, les affrontements ont fait 2 morts du côté des manifestants et 2 blessés par balle parmi les forces de l'ordre. La thèse est claire, les Algériens étaient armés, la police en état de légitime défense. Les jours suivants seront mis à profit par les pouvoirs publics pour faire obstacle à toute enquête indépendante et justifier les mesures de répression avec l'accord tacite de l'opinion. Le massacre sera ainsi refoulé de la conscience collective. En vérité, il n'y eut pas un seul policier blessé par balle, mais la répression fit plus de 200 morts.
Au micro, Jacqueline Baudrier. Le prétexte de ces manifestations, vous le connaissez, ce sont les récentes mesures prises par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police. Il avait été conseillé aux musulmans algériens de ne pas sortir entre 20h30 et 5h30 du matin pour éviter de nouveaux attentats contre les gardiens de la paix et aussi pour que les travailleurs musulmans ne soient pas confondus avec les terroristes. Ces décisions, diverses organisations politiques et syndicales les condamnent, Force ouvrière de la région parisienne, le PSU, la Ligue contre le racisme et le mouvement de la paix. Aux arguments de ces organisations, M. Roger Frey, cette nuit, devant les députés, a opposé les raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises et surtout, il les a justifiées par leur efficacité, Jean-Pierre Elkabbach.
En effet, du 29 août au 7 octobre dernier, 102 attentats avaient fait 99 victimes, dont 52 tués musulmans et 11 morts parmi le service d'ordre. Depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis l'application de ces mesures, il n'y a eu qu'un seul attentat faisant un blessé. Le FLN essaie donc maintenant par tous les moyens d'obtenir la suppression des décisions gouvernementales qui gênent son action terroriste. On ne sait pas encore pendant combien de temps ces mesures resteront maintenues. Elles seront en tout cas appliquées jusqu'à ce qu'on puisse être assuré que le retour à la normale n'entraînera pas des risques pour des vies humaines. C'est ce qu'a précisé d'ailleurs M. Roger Frey. D'autre part, on a rappelé à Paris 6 compagnies de CRS et 4 escadrons de gendarmerie pour bloquer d'éventuelles manifestations musulmanes. La police vérifie soigneusement en ce moment l'identité de chacun de ces 9260 Algériens. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jacqueline Baudrier. 6600 d'entre eux sont au Palais des Sports, de la Porte de Versailles, 1800 au Stade de Courbertin et 660 à Vincennes. Un premier contingent de 500 hommes a pris l'avion ce matin à Orly pour Constantine. Un deuxième contingent, qui groupe 1000 Algériens, sera acheminé demain vendredi par bateau à partir de Marseille. En Algérie, ils seront tous assignés dans leur commune d'origine.
Le vent modéré soufflera d'ouest, les températures maximales baisseront un peu, cependant que les minimums resteront inchangés. Au sud de la ligne Nantes-Strasbourg, le temps sera chaud et orageux. Les orages seront plus fréquents et plus violents sur le relief, ainsi que sur le sud de l'Alsace, alors que les éclaircies seront plus marquées sur la Vendée, les Charentes, le Berry. Les vents, le plus souvent faibles et variables, souffleront en rafale sous les orages. Quant aux températures, elles resteront du même ordre que précédemment.
Voilà ce que disait en gros la Voix de la France ce jour-là, ce 17 octobre 1961. Mais il y avait en ce temps-là des Français en France et des jeunes Français qui étaient désappelés. Les soldats du contingent, il y en a eu beaucoup qui sont partis en Algérie et certains étaient en France et faisaient leur service militaire. C'était le cas de Gérard Grange qui aujourd'hui est prêtre à Marseille et qui se souvient.
C'était le 18 octobre donc, 61. Nous avions fait une journée normale au CISS, s'appelait Service d'instruction du service de santé des armées, à Vincennes, où l'on formait des infirmiers. Et le soir, vers 5 heures, notre gradé est venu nous demander, les séminaristes, de descendre dans la cour avec notre casque lourd et une tenue de combat. Nous sommes montés dans un camion, nous ne savions absolument pas où nous allions. Simplement, de manière un peu mystérieuse, on nous a dit... Il y a quelque chose de très délicat, il faut les types sérieux, c'est très délicat, voilà. Et on est arrivé brutalement projeté, si vous voulez, d'une vie de caserne toute simple, dans l'horreur. On a vu dans le grand amphithéâtre, disons, de la Porte de Versailles, ce que j'ai appris à être des milliers, mais enfin, beaucoup de gens, d'hommes, essentiellement des hommes, africains, nord-africains. Et à ce moment-là, on a vu un capitaine, dont j'ignore toujours le nom d'ailleurs, qui était vert. Et vous êtes séminariste, on a dit oui. Et Pommier et moi, nous avons été à une espèce de petite fenêtre et nous avons vu le comité d'accueil dont parle Jean-Luc Enaudi, c'est-à-dire un autobus de la RATP dont sortaient des gens avec les mains sur la tête et une rangée de civils, d'ailleurs, je tiens bien à dire que c'était des gens en civil.
Des flics en civil.
J'ai appris ensuite que c'était des flics, je ne savais pas du tout à ce moment-là. Mm-hmm. qui tabassaient. Alors, ça criait. Il y en a qui roulaient par terre. Et en général, on essayait d'atteindre la tête et puis les parties génitales. Mmh. Évidemment, c'était assez laid. Et le capitaine en question a dit, c'est un déshonneur pour la France. Mmh. Et en rentrant à droite, il y a une pièce qui doit faire 15 mètres carrés, qui devait être prévue pour l'entretien. Et j'ai vu 9 types par terre, hein, morts.
Morts ?
Morts, ça c'est sûr.
Pourquoi vous en êtes sûr ?
Parce qu'il me l'a dit, le capitaine me l'a dit. Puis ils étaient balancés comme ça. À ce moment-là, j'ai accompagné les types qui voulaient aller aux chiottes. Mmh. Ça a duré des heures, ça aussi. J'ai accompagné un type après l'autre, si vous voulez. On attendait qu'ils aient fini, puis on les ramenait à leur place. Mmh. Et au moment où nous allions rentrer, on a été refoulés brutalement par les gardes mobiles. Et il y en a un qui a tiré une rafale de mitraillette.
Qui a tiré ?
Le garde mobile.
Oui.
De bas en haut, je me rappelle encore très bien, et un type en a ramassé, derrière, en sang. Et puis on m'a refoulé à ce moment-là.
Oui.
Voilà, ça a duré jusque fin de matinée du lendemain. Nous étions donc épuisés de fatigue et les nerfs à bout. Et on nous a menés à la caserne Mortier pour aller boire un café ou une bière, si on voulait. Et là, nous avons vu la télévision, au journal télévisé, avec Roger Frey, ministre de l'Intérieur, qui a affirmé solennellement qu'il n'y avait pas eu d'événement, comme on pouvait l'imaginer, qu'il y avait une simple opération de vérification d'identité, et qu'il n'y avait rien eu, à part chez les policiers, où il y avait eu 2 blessés. Mmh. Voilà. Alors à ce moment-là, on est venu nous chercher, et on est remonté dans un camion, on est allé dans notre caserne. À la caserne, on nous a ouvert exceptionnellement les douches, on a eu droit à se reposer, et on est reparti à 5h l'après-midi. Nous avons donc recommencé notre service, mais non plus dans le grand amphithéâtre dont je vous parlais, mais dans les bâtiments à côté de l'exposition. Et alors, dans la nuit, on nous a demandé d'accompagner des gens. Par exemple, j'étais à un carré, et je devais prendre un tel, et les amener à une porte. Je ne savais pas ce qui se passait derrière la porte. Jusqu'à un moment donné où j'ai vu sortir les gens de cette porte. Et en particulier un, ça c'est extrêmement clair, dont on a dit qu'il avait 4 membres cassés, qui était dans un état épouvantable, il avait une plaie à la tête. Nous l'avons mis sur un brancard, et nous l'avons porté sur une espèce de tente qu'on avait montée, dans un des halls, qui était le hall infirmerie. Si vous voulez, ça a duré jusqu'au samedi soir, ça. Le samedi soir, moi je suis rentré crevé, et nous avons eu droit à une permission de soirée. Je suis à la porte de Montreuil, chez le frère de mon père, mon oncle, et j'ai raconté ça, très excité, vous voyez. Et à ce moment-là, mon oncle a mis la télévision, que c'était le journal télévisé, et il m'a dit à la fin, mais enfin, imagine-toi, s'il y avait eu quelque chose, ça se saurait.
Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais bla bla bla, c'est ton réponse. Tu parles à tort des gens que tu ne connais pas. Tu dis bien fort ce que l'on pense tout bas. Tu fais bla.
Maître, je vous tiens au courant des circonstances dans lesquelles j'étais arrêté. Voici donc le 21 janvier 1961. J'empruntais la rue Max Dormoy dans le 18e. Je rencontrais des harkis en civil qui m'emmenèrent au poste leur appartenant situé au 28 rue de la Goutte d'Or sans qu'ils aient vérifié mes papiers d'identité. Aussitôt arrivé au poste, les harkis prétendaient que je suis un responsable du secteur dans l'organisation FLN. J'étais battu. Le lendemain, mon arrestation par 4 à coups de cravache pendant 1 heure de temps. Par la suite, ils se sont mis à me passer un bâton entre les jambes pour me lever et me laisser tomber à terre. Ils me prenaient par la tête et me donnaient des coups contre le sol à chacune de ces tortures. Le coup d'après, les harkis me passèrent une corde au cou et la nouèrent. Ils voulaient me pendre au plafond pour leur donner des aveux. Ensuite, ils me menacèrent avec un pistolet qu'ils avaient posé sur la tempe. Pendant un autre interrogatoire, j'ai été battu à nouveau par le lieutenant et ses subordonnés dans son bureau. De là, ils m'ont lié les mains à la cave et avec une corde m'attachèrent un bâton passé au-dessus des genoux de façon à ne pouvoir tenir assis ou debout et me versèrent de l'eau dans la bouche jusqu'à étouffement. Ce liquide passait par mes oreilles et mon nez. Cette eau est mélangée à de l'eau de Javel. Un compatriote qui avait subi le même sort est arrivé à se pendre dans les waters pour la juste raison de ne pas résister aux tortures qu'il ne pouvait supporter. Malgré ma faiblesse, ils me forcèrent à leur faire la corvée à 1h du matin. Depuis le 21 janvier jusqu'au 1er février que les harkis m'avaient gardé, je n'avais pas de couverture ni de matelas dans cette cave. Je ne peux vous dire bien d'autres cas pour le moment.
C'est signé à Monsieur Younes. Oul de Younes.
Nicole Rhin, qui aujourd'hui a 65 ans, qui est avocate au barreau de Paris et qui défendait les militants FLN de Paris pendant toute l'année 61, a enregistré ses plaintes, mais qui n'ont pas eu de suite, puisqu'il y a eu, à la suite des accords d'Évian en 62, une loi d'amnistie, et une série d'ailleurs de lois d'amnistie. Ces tortures étaient une pratique courante à l'époque, en cette époque troublée, torture dans la République. Il faut rappeler qu'entre autres mesures, le préfet de police, Maurice Papon, à la demande du gouvernement, a instauré les FPA, c'est-à-dire les forces de police auxiliaires, qui étaient constituées de harkis venus d'Algérie, qui vont, les calots bleus, on les appelait, qui vont réprimer impitoyablement, s'infiltrer, espionner, semer la terreur dans la communauté des Français musulmans d'Algérie, et surtout torturer, et ça se passera en plein Paris, dans divers endroits de la capitale, dans le 13e arrondissement, rue de la Goutte d'Or, dans ce que les voisins du quartier appelaient les caves chantantes. On mettait de la musique pour couvrir les hurlements des suppliciés. Alors, évidemment, ce sont des épisodes terribles. Après l'indépendance, à partir du 1er juillet 62, le préfet de police Maurice Papon nommera gardien de la paix titulaire la plupart de ses harkis. Et il faut dire que dans la mémoire et dans le moment, les exactions commises par ces 300 harkis de Paris vont l'emporter. Et du coup, il y aura peu de protestations pour s'élever au moment des massacres de juillet à décembre 1962, massacres de dizaines de milliers de Français musulmans en Algérie. Voilà un témoignage assez précieux, c'est celui de Monsieur Moussaoui, qui était alors chef de section dans ses FPA, dans ses forces de police auxiliaires, donc harkis. Voilà son témoignage.
Le 17 octobre n'a pas constitué une date historique, ça a été une date d'événement exceptionnel dû à une forme d'insurrection qui voulait envahir Paris. Notre République avait laissé faire, l'insurrection aurait dégénéré dans des conditions incontrôlables. Quant à moi, je n'ai pris position que tard dans la soirée du 17 octobre et je me situe avec ma formation en appui des forces institutionnelles des services de police, c'est-à-dire les compagnies de district à l'époque, à la porte de la Villette. C'était plus pour soutenir l'action de ces forces et essayer de faire comprendre aux Algériens qu'ils n'avaient pas intérêt à rentrer dans Paris parce que ça aurait dégénéré, que pour les repousser par la force ou je ne sais ce qu'on a pu inventer dans cette affaire. Mais c'était une opération de maintien de l'ordre, rien de plus.
Vous, à l'époque, vous faisiez partie de...
J'étais chef de section dans les forces de police auxiliaires.
C'est-à-dire, c'était, pour expliquer aux auditeurs, les forces de police auxiliaires, c'était des groupements qui avaient été formés oui. et qui étaient essentiellement composés de harkis, comme on disait.
Oui, si vous voulez. C'est un terme qui est... Moi, personnellement, je le trouve tout à fait correct, mais beaucoup de gens qui en avaient fait partie le trouvent péjoratif. Et bien sûr, c'était des supplétifs qui étaient mis à disposition du gouvernement et du préfet de police pour lutter contre le terrorisme FLN qui s'abattait sur le pays, et notamment à Paris, Marseille et les autres grandes agglomérations où il y avait des organisations subversives particulièrement actives et qui n'hésitaient pas à tuer dans des conditions extraordinairement méchantes.
Bonjour, je m'appelle Samia, je suis née le 6 mars 1961 et je suis d'origine algérienne, née à Paris. Et j'ai toujours cru, toute petite, c'est une arabe de Paris qui vous le dit, que quand on était arabe, on risquait de finir dans la Seine, mais je ne savais pas pourquoi. Mes parents parlaient de la guerre, et puis c'est tout. Et puis je ne le savais pas. Et puis j'ai su un jour, 30 ans après, j'ai su ce qui s'était passé. Et ce que je voudrais dire, c'est que j'avais un papa qui avait choisi le mauvais camp, qui avait choisi la France, l'Algérie française. Et j'ai donc vécu ici. Et j'ai beaucoup de peine parce que moi, je demande des excuses. Je demande que De Gaulle demande pardon pour ce qu'il a fait aux Français qui étaient engagés de l'autre côté, c'est-à-dire aux Algériens qui se considéraient Français, même si c'est ambigu et même si c'est difficile. Je pense qu'il n'y avait pas de bon et de mauvais. Voilà. Et merci beaucoup, Daniel Mermet, d'en parler.
Un beau message bouleversant que nous avions eu sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, en 1997. Je me demande si, depuis quand même, les choses ne se sont pas un peu apaisées, sont devenues plus sereines, justement à cause de tout ce travail de tous, c'est pas seulement quelques journalistes, quelques historiens, c'est aussi le travail de tous, la conscience de tous. L'histoire, ça va pas vite. L'histoire, c'est lent. La mémoire, c'est très très lent. Et les historiens, un historien comme Benjamin Stora le sait très bien. On se souvient comment, lors de son procès à Bordeaux, Maurice Papon, concernant le 17 octobre 61, a dit que c'était une histoire d'affrontement entre le FLN, le MNA, c'est-à-dire le mouvement nationaliste algérien. Et enfin, bon, c'était des règlements de compte entre ces gens-là. Benjamin Stora.
Au vu des documents que j'ai pu consulter personnellement, puisqu'il se trouve que pour ma thèse d'état, j'ai pu avoir accès à quelques documents des policiers, c'est très clair, il n'y a plus de militants du MNA à Paris et la région parisienne en octobre 61. Le FLN est en situation hégémonique en 61. Il n'y a pas de dissidence politique à l'intérieur du front. Les militants du MNA existent essentiellement dans le nord et dans l'est de la France. Les organigrammes des renseignements généraux sont formels. Et ils sont établis, sont formels, il n'y a plus, disons, de militants du MNA. Par contre, ce qui existe à Paris en 1961, en octobre 61, ce sont les harkis, mis en place par Maurice Papon. Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que les brigades...
Ce sont des corps spéciaux à l'intérieur de la police.
Oui, ce sont des corps spéciaux de Français musulmans qui ont été rapatriés d'Algérie, donc installés à Paris et dans la région parisienne, pour lutter contre le FLN. À partir donc des années 1960-61. Bon. C'est Maurice Papon d'ailleurs qui a eu cette idée de faire venir d'Algérie ces commandos, enfin ces hommes, parlant parfaitement l'arabe évidemment, capables de se fondre dans une population, donc capables de renseigner, capables de dire ce qui se passe au niveau de l'état d'esprit. On le voit bien d'ailleurs à la lecture des rapports des renseignements généraux, qui sont très très fouillés là-dessus, sur l'état d'esprit des populations musulmanes en région parisienne, etc. On voit très bien tout cela. Et là, cela par contre engage une bataille contre le FLN. D'ailleurs, le FLN, en 61, ne se bat plus contre le MNA, il se bat essentiellement à Paris contre les calots bleus, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire ceux qui étaient ces harkis. C'est-à-dire que la bataille dont parle Maurice Papon n'est pas entre dissidents du FLN et membres du FLN. S'il y a eu bataille à cette époque-là, celle se fait entre ceux qui sont dirigés par Maurice Papon, c'est-à-dire des commandos de Harki dirigés par Maurice Papon, et des commandos de ce qu'on appelait l'organisation spéciale au sein du FLN, qui était chargée de combattre militairement sur le sol français les groupes de Harki. Là, c'est une autre bataille, qui n'a rien à voir avec le MNA et la dissidence du FLN.
Alors, en quoi est-ce que tout ça éclaire ? Bon, il y a Papon, mais en quoi est-ce que cet événement et cette histoire travaillent, éclairent, peuvent expliquer ce qui se passe aujourd'hui ?
Pour qu'une mémoire soit portée dans l'espace public, pour qu'elle existe, il faut des groupes capables de la porter. Or, la grande leçon, c'est le combat livré par les enfants issus de l'immigration algérienne en France. Et dans le fond, si le 17 octobre 61 existe aujourd'hui comme il existe, et de quelle manière dans l'espace public français, on le doit en grande partie au combat livré par les enfants de l'immigration algérienne en France. Dans le fond, la reconstruction d'une identité à l'intérieur de la société française passe par une demande de réparation de l'État français. C'est une façon de s'intégrer dans la société française, de se voir reconnaître comme citoyen, c'est une exigence de citoyenneté. Je crois que ça, c'est très fort. C'est-à-dire que cette mémoire, elle explose aujourd'hui, dans le fond, par revendication de citoyenneté adressée à l'État.
On se dit, mais et les enfants de l'immigration, et les enfants de ceux qui étaient dans cette manifestation ce jour-là, ce 17 octobre 1961, c'est FMA, comme on disait à l'époque, ces Français musulmans d'Algérie, leurs enfants, leurs petits-enfants, que disent-ils, que font-ils, dénoncent-ils cette occultation? Eh ben oui, il s'en est trouvé, évidemment, de plus en plus, avec le temps, pour se dresser, pour enquêter, pour faire savoir. Et c'est le cas de Mehdi Lalaoui, qui est réalisateur de films et d'un documentaire déjà ancien, sorti en 1990, ou 1991 exactement, qui s'intitulait « La mémoire du fleuve » et qui retraçait cette journée du 17 octobre 1961. On l'a rencontré avec Guy en 1997. Il va nous dire pourquoi cette journée a de l'importance pour lui. Il continue de militer, Mehdi Lalaoui, pour la mémoire, mais pour la mémoire de tous en France, et évidemment aujourd'hui pour, ou plutôt contre, cette loi scélérate de janvier 2005.
Qu'est-ce qui est à la source de votre engagement à vous ?
La source de mon engagement, c'est le hasard. Mon père était sur le pont de Neuilly le 17 octobre 61. Donc cette histoire m'a perturbé et me perturbe depuis très 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 longtemps.
Qu'est-ce que vous a dit votre père, sujet de ce qui lui est arrivé ?
Oh, mon père, c'est un vieux monsieur qui est un ouvrier de la métallurgie. Mon père a refusé d'amener ma mère et mes frères et nous à cette manifestation. On l'a su très, très tard, hein, parce que les vieux Algériens, les familles, avaient cette dignité de l'indépendance retrouvée en 62. Et ils ont dit, le passé est mort, on construit. Et c'est une espèce de modestie presque maladive, en disant, on a souffert, on ne veut pas transmettre notre vie d'esclave, notre vie de souffrance, on ne veut pas la transmettre, l'histoire des bidonvilles, c'est trop dur. Et c'est en les titillant, en disant, oui, mais cette histoire, on veut savoir qu'est-ce que vous faisiez, comment vous viviez, qu'est-ce que c'était les bidonvilles, comment vous travaillez, comment vous surviviez, cette guerre d'Algérie qu'on appelle les événements d'Algérie, pourquoi vous êtes parti de ce pays dont vous parlez tous les jours. Bon. Et donc, moi, j'ai su le 17 octobre 61, assez tard, hein, j'avais 15-16 ans, hein, par des vieux militants du FLN, par mon père. Et pendant toute ma jeunesse, cette histoire m'a perturbé, parce que j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible que dans une société, même en guerre, sauf que là, c'est au cœur de Paris, c'est à Paris, hein, c'est la France des droits de l'homme, c'est la France avec des députés et ses filleaux, communistes, républicains, c'est la France de la résistance, hein, d'une certaine façon.
Comment ça, c'est la première fois que votre père vous en a parlé ?
Oh là là, il a fallu pas le travailler, mais mon père et les autres vieux, ils disaient, mais c'est pas intéressant. Et ensuite, ils ont parlé, ils ont dit, Asseyez-vous, on va vous raconter. Voilà, on était des Français musulmans d'Algérie, c'était l'appellation. On était comme des esclaves. Pour nous, c'était une manifestation de la dignité. Parce que faut bien se rendre compte que le 17 octobre 61, c'est un mardi. Ce sont des gens qui travaillent. La Fédération de France du FLN, ce sont des ouvriers. Ce sont 95% d'ouvriers, dont beaucoup ne savent ni lire ni écrire. Et donc pour eux, c'est insupportable d'être bloqué par ce couvre-feu raciste. Dans le bidonville de Nanterre, ou de Houille, ou d'Argenteuil, ou d'autre part, cette chasse aux faciès algériens trouve des choses un petit peu anecdotiques. Il y a des Marocains, des Tunisiens qui marquent sur la boîte aux lettres « Marocain, Tunisien » pour ne pas se faire arrêter. Et le fait de descendre un jour de la semaine, en plein jour, avec femmes, hommes, enfants, c'est une manifestation d'indignité. Et ce qui est pathétique, c'est que ce mardi, ces gens sortent des chantiers, vont s'habiller, vont mettre leurs costumes, vont mettre leurs cravates. Sur les grands boulevards, on voit les femmes avec de belles robes pour dire « on n'est pas vos esclaves ». La France des années 60, on n'est pas des esclaves, on est des êtres humains, on veut notre liberté. Et c'est ce combat qu'on, 36 ans plus tard, qu'on reprend. On est des gens, on est des êtres humains. Et les êtres humains méritent, pour marcher sur leurs deux pieds, une mémoire, méritent une dignité. Et la mémoire, c'est aussi un élément de la dignité. C'est pour ça qu'on se bat pour que cet événement soit reconnu officiellement, qu'on ouvre les archives et qu'enfin, ce que tout le monde sait, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches d'historiens, cet événement soit reconnu.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Daniel Mermeil de Guy Banquetil. Merci à Jean-Luc Enodi, Benjamin Stora et Didier Deninx. Pour en savoir plus sur cette journée d'octobre, l'ouvrage incontournable de Jean-Luc Enodi aux éditions du Seuil, La bataille de Paris, 17 octobre 1961. À noter également en ce moment la semaine anticoloniale partout en France et jusqu'au 25 février. De nombreux événements sont au rendez-vous, des conférences, des débats, des concerts, des films. Et vous avez une présentation complète de cette semaine sur le site www.anticolonial.org, www.anticolonial.org. Sinon, toutes les informations sont disponibles sur le site franceinter.com à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves Desrolin et Dimitri Scapolan, réalisation Yann Chouquet et Coy Nguyen, assisté de Charlotte Perry, le chef du répondeur c'est Christophe Imbert. Il attend vos messages, vos réactions sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.